c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé aujourd'hui, deux coups de cœur ciné pour vous à vous proposer. Le premier, en effet, pour s'entendre, le nouveau film de Pascal Elbé, magnifique film dans les salles mercredi. Pascal Elbé est notre invité dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé cette semaine avec Nadia Rose et Boudère qui seront avec nous pour la diffusion du téléfilm Le Furet ce soir sur TF1. Lies Loufoque aussi qui a été, on va dire, celui qui a inspiré le film L'Enfant de Personne que vous allez voir ce soir sur France 2 sera notre invité exceptionnel. On va parler avec lui évidemment de sa biographie, de son livre, mais aussi donc de ce film qui sera diffusé ce soir. Et puis les Baudins en Thaïlande, c'est le coup de cœur ciné, le deuxième coup de cœur ciné cette semaine. Jean-Christian Frayssinet et Vincent Dubois, les Baudins seront nos invités exceptionnels en fin d'émission. Un moment rare à ne pas rater. Ensuite, on écoute la télé. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer et on va tout de suite commencer. C'est Pascal Elbé qui nous rejoint tout de suite.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film En effet pour s'entendre de Pascal Elbé, réalisateur et comédien dans ce très beau film qu'on a pu voir nous en avant-première au Festival du film d'Angoulême. Pascal Elbé, notre invité aujourd'hui. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai adoré votre film. Clairement, on est sur un film qui éveille les consciences un petit peu aux difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui les personnes malentendantes, notamment. Vous vous attaquez vraiment et sur le ton de la comédie, pas sur un ton pathos, ça c'est très important, à ce sujet délicat.
Oui, c'est un sujet... vous savez, j'ai surtout voulu parler de notre rapport à l'autre. On est dans une époque où on est tous ultra connectés, pourtant on n'a jamais été aussi finalement seuls et isolés les uns des autres. On est dans une époque qui est très clivante, très segmentée, et je trouvais que c'était bien de raconter, de faire une histoire avec ces gens-là qui, pour montrer qu'on a réellement besoin de les uns des autres pour avancer. Hein. L'homme est un animal social, il faut donc... On a besoin de l'autre, et c'est vrai que ce thème-là du handicap, qui est juste la thématique d'un des personnages, que je connais de près, puisque moi aussi j'ai perdu de l'audition, et on est dans la tentation du repli, de la fuite, et comme le personnage, je me suis rendu compte que non, il était hors de question de fuir la compagnie des humains, qu'il fallait se battre pour rester dans la, j'allais dire, dans la mêlée, dans la course, parce qu'on est en, il y a ne rien partager, donne un goût assez tiède à la vie. On est fait pour être les uns avec les autres, pas les uns dressés toujours contre les autres. Aujourd'hui, on est dans une époque où on est toujours dans le j'aime pas. Entre les deux, il y a un mode, vous voyez, il y a une petite zone un peu grise qu'il faut creuser. On n'est pas forcément pour ou contre. En tout cas, on est ensemble.
J'ai appris, moi, en regardant par exemple le film, que perdre de l'audition, ça ne rend pas toujours compte tout de suite. Et ça, j'ai appris par exemple grâce à votre film.
Oui, parce qu'en fait, on est encore une fois très connecté seul avec sa tablette, on se rend compte de pas grand chose. Vous savez, j'ai eu le Covid et j'ai perdu l'odorat, et on est tellement déconnecté, on est tellement dans un milieu urbain que j'ai mis en fait quelques jours à me rendre compte que je ne sentais plus, parce que on est très quand même très déconnecté de tout ça. Et c'est vrai que l'audition, on s'en rend pas immédiatement compte. C'est d'ailleurs souvent les gens qui vous le signifient. Puis après, quand on s'en rend compte, on est un peu dans le déni. Il y a une étape où on dit mais non, c'est eux qui parlent mal ou qui articule mal, on est un peu dans une forme de déni, puis un jour on est dans l'acceptation, et une fois qu'on accepte ce petit handicap, on essaye de le résoudre en allant de nouveau vers l'autre. Sinon on s'en rend pas compte, mais tout doucement on glisse vers une forme de solitude et d'isolement.
Alors, il y a une histoire qui est en train de se nouer petit à petit avec sa voisine. Mais évidemment, ça part très mal au départ, hein, quand même.
Oui, alors, Wissandrine qui est Berlin, qui donc joue ma voisine, ça part mal parce qu'elle est avec un voisin qui peut être un peu bruyant, parce que je laisse sonner mon radio réveil assez longtemps, parce qu'évidemment, je l'entends pas ou en mal. Et ça part mal, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que cette histoire, ces deux personnages-là vont se rapprocher grâce à sa petite fille à elle, qui est devenue mutique depuis la mort de son papa. Et en fait, c'est pas une comédie romantique, où les dés sont, où dès le début, les cartes sont distribuées. C'est ces deux personnages-là qui vont finalement s'approcher, se croiser grâce à cette petite fille et qui vont apprendre à s'apprécier, et puis par la suite, je pense, à s'aimer.
Alors, il y a des scènes très drôles, hein. La scène de restaurant, par exemple, hein. Le premier dîner et pas de tout repos.
Oui, pas de tout repos, oui, parce que évidemment, pour un malentendant, aller dans un lieu public, c'est compliqué, et avoir un dîner, j'allais dire, en tête à tête, comme je le montre dans le film, hein, les gens vont le découvrir, mais c'est un parcours d'obstacles. C'est un espèce de travail d'équilibriste pour arriver à pas passer pour quelqu'un de rabat-joie ou de complètement à l'ouest.
Et pourtant, on est fait pour s'entendre, n'est-ce pas?
Voilà.
On va écouter la bande-annonce tout de suite, on revient juste après avec vous, Pascal.
Le bouton.
Le mouton.
Le soleil.
Le sommeil. Vous avez pensé à mettre des boules vieilles?
Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça?
Vous n'entendez à rien.
Le 6.
Le 6, mais moi le 5.
Non,
le 6.
Comme ça, je m'en compte. 1940.
Monsieur, vous allez trop vite, on ne va pas te noter.
Allô, on est là, monsieur.
Toujours un plaisir d'échanger avec toi.
J'entends bien ou j'entends rien?
Rien.
Rien?
Oui, rien.
On est fait pour s'entendre, le film à ne pas rater de Pascal Elbé au cinéma mercredi. Un film drôle qui va en même temps vous apprendre plein de choses. Il est vrai que quand on peut régler le problème d'un malentendant avec des aides auditives, eh ben c'est pas si facile que ça, pour le coup, pour s'acclimater.
Ah non, alors là je parle un peu aux gens qui parfois ont renoncé. Et donc c'est compliqué cette période d'adaptation, il faut que le cerveau réapprenne à filtrer les sons, à s'habituer, il y a une période d'accoutumance. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que ça vous permet de rentrer de nouveau dans le jeu social, sinon vous isolez. Donc oui, porter un appareil auditif, ça peut être au début contraignant, compliqué, ça peut même vous rendre fou. C'est un peu un enfer, mais comme je dis, je fais dire mon personnage à la petite, entre l'enfer et le monde du silence, il préfère encore l'enfer, parce que l'enfer c'est toujours avec les autres. Se replier dans un silence profond, c'est terrible, c'est un avant-goût de la mort, hors de question.
Alors vous avez réuni un casting merveilleux, Sandrine Kiberlin, Valérie Donzelli, Emmanuel DeVos, François Berléand, Marthe Villalonga, qu'on voit pas assez souvent pour moi, Claudia Tagbo et plein d'autres, Antoine Gouy aussi, magnifique casting autour de vous.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance, vous savez je suis acteur donc on connaît un peu tous les camarades avec qui j'ai travaillé, mais d'avoir dans ce film-là j'ai des Stradivarius, hein, d'avoir Sandrine Kiberlin, c'est quelqu'un que je respecte et que j'aime profondément et qui a un talent fou qui a une nuance folle, mais je pense aussi à Emmanuel DeVos qui joue ma sœur, Valérie Donzelli pour son engagement, son enthousiasme, j'étais très gâté par les femmes et François Berléand avec qui je n'avais jamais tourné et j'ai eu comme une forme de rencontre d'évidence, voilà.
Quel a été votre meilleur moment sur ce film?
Oh, le meilleur moment, vous savez, c'est quand on avait interrompu le film à cause du Covid pendant 2 mois et le jour où on a repris le tournage et qu'on s'est retrouvés tous plusieurs sur un plateau et que j'ai pu redire moteur, ça a été un moment très fort, très fort, très fort.
Ouais, j'imagine bien, effectivement. Dans 2 jours, il sort au cinéma, on ressent quoi là, maintenant?
Ben, on ressent quand même une petite inquiétude, évidemment, on est angoissé, c'est le jour d'une sortie d'un film, ça sanctionne des années de travail. Mais en réalité, j'ai eu tellement de beaux retours que j'ai hâte de le partager. J'ai surtout hâte de le partager, plus que de la crainte.
Foncez-y, moi je vous le dis. Mercredi, on est fait pour s'entendre. C'est au cinéma, c'est donc le nouveau film de Pascal Elbé. Merci Pascal infiniment d'avoir été avec nous.
Merci à vous et bonne route.
Et on va écouter tout de suite un nouveau petit extrait. À très bientôt.
À bientôt.
Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça, là?
Bon, j'espère que t'es prêt pour maman.
Tu devrais pas t'énerver comme ça avec elle.
Oui, c'est facile pour toi, t'entends rien. J'en peux plus d'écouter ces conneries.
Maman, c'est moi, c'est ton fils.
Ça m'étonnerait. Mon fils vient jamais me voir.
J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule.
Baisse la garde, écoute, ton cœur fonce, là.
Ça fait 3 nuits qu'elle dort mieux.
C'est super, il s'est passé quelque chose de particulier.
dans un instant, Nadia Rose, Boudère pour le furet, Elias Loufoque pour l'enfant de personne et Baudin sans fin d'émission. Alors restez avec nous, Chute on écoute la télé, reviens, à tout de suite.
Bouge pas, Chute on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré au téléfilm L'Enfant de Personne qui va être diffusé cette semaine sur France 2 d'après l'ouvrage de Lies Loufoque qui est justement notre invité. Bonjour Lies.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mais en fait, Lies, c'est ta vie qu'on va voir défiler sur nos écrans. Une vie pas simple, une vie ballottée un peu de foyer en foyer où tu racontes l'enfer des foyers justement qui accueillent des jeunes enfants. C'est pas toujours su, mais là voilà, ça permet aussi de mettre un peu au grand jour. On souffre avec cet enfant. Il faut dire qu'à 7 ans, quand tu as publié ce livre, est-ce que tu pensais qu'un jour tu verrais défiler ça sur un écran?
C'est pas simplement mon histoire. Je pense que c'est vraiment l'histoire de tous les enfants placés. Même s'ils ne se reconnaîtront pas forcément sur les 90 minutes du film, je pense qu'il y a toujours un moment dans ce film. Voilà, une part de ce film dans lequel ils pourront se reconnaître. Parce que finalement, l'histoire des enfants placés en France, elle est assez universelle. Qu'elle soit jalonnée de ruptures, qu'elle soit violente parce que placée dans un foyer où la maltraitance s'exerce, ou tout simplement parce que les liens avec des parents biologiques extrêmement défaillants sont maintenus contre notre intérêt. Voilà, à chaque moment, finalement, à chaque étape, je sais que beaucoup d'enfants placés s'y reconnaîtront. Donc, et c'était pas la volonté de faire un film simplement sur mon histoire, sur mon parcours. C'était la volonté surtout de mettre en lumière un sujet qui devrait normalement intéresser toute la société et qui jusqu'à présent reste encore trop souvent dans les angles morts. Ce que ça fait de le voir, c'est très perturbant déjà, même un peu angoissant la première fois qu'on y est confronté. Après, en m'engageant dans ce projet, j'avais toujours eu cette volonté de vraiment en faire un objet politique. C'était ça qui m'importait, c'est qu'on fait pas un film simplement pour émouvoir les gens.
Non, c'est pour éveiller les consciences.
Et je pense que l'objectif est rempli. Là, il y a eu une projection. On a déjà diffusé le film à plusieurs reprises.
Et au Festival de La Rochelle d'ailleurs, il a été diffusé il y a quelques semaines.
Absolument. Enfin, en tout cas, de l'écho que j'ai eu des personnes qui ont été amenées à le regarder, l'objectif est rempli. Voilà, ils ont découvert des choses, ils ont été en colère aussi, et je pense certains ont eu l'envie d'agir. Là, en sortant de la projection, plusieurs m'ont demandé comment on peut faire pour aider. Et ben, c'est très simple, on peut parrainer ou marrainer un enfant placé, soutenir des associations d'anciens enfants placés, regarder aussi les programmes électoraux de ces candidats ou candidates aux élections départementales, voire, j'ai envie de dire, même présidentielles, puisque souvent l'enfance est absolument pas un sujet traité dans le cadre de ces élections, et c'est bien dommage. Donc voilà, il y a une vigilance citoyenne qui doit s'organiser et c'est un peu ce que ce film appelle.
Les enfants qui jouent ton rôle, moi franchement, on souffre avec eux. C'est des fois difficile, oui, ça met en colère, ça interroge. C'est aussi le but du film, hein, tu me diras, mais comment ils sont venus à toi? Est-ce que pour le coup, ils sont venus te poser des questions? Est-ce qu'ils ont été un peu curieux de tout ce que tu avais vécu?
Alors ils sont pas venus à moi directement, ils sont plutôt venus au réalisateur parce qu'ils ont organisé des castings un peu partout et puis surtout ce film a la particularité d'avoir comme acteur et comme actrice des enfants qui sont encore actuellement placés et ça c'était un challenge qu'on s'était fixé au départ qui consistait simplement à dire que c'est un film sur les enfants placés qui doit être fait avec des enfants placés et non pas sans eux et donc cet objectif aussi a été rempli puisque beaucoup d'acteurs et d'actrices sont eux-mêmes concernés par le placement. Ces enfants, moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer sur le tournage, de leur parler aussi un peu, mais c'est surtout l'équipe technique qui...
Oui, Hakim Isker, à qui on doit d'ailleurs la réalisation de ce film.
Absolument, c'est ça. Et puis le dernier, le plus âgé, donc Moncef qui joue le rôle de Lies, mais le plus âgé, eh bien lui-même est un enfant qui vient de foyer. Voilà.
Ouais. Donc,
j'avais pas vraiment besoin, si tu veux, de transmettre des choses parce que de toute façon, ils savaient déjà.
Ils avaient un vécu.
S'agissait.
C'est ça qui est assez incroyable. Ce qui t'est arrivé quand même, c'est que tu avais une mère d'accueil qui t'a recueilli tout bébé et c'est là, au moment donné, qu'on t'arrache. Pourquoi on a vraiment ce sentiment d'injustice? Pourquoi on t'arrache à cette mère aimante, même si c'est pas une mère de sens, une mère de cœur qui est là aujourd'hui? Pourquoi on t'arrache à elle pour te mettre dans un foyer où en plus tu vas être violenté, maltraité en quelque sorte.
Je crois qu'en fait t'as déjà tout dit, ce n'est pas ma mère de sang. Et ça c'est un problème en France, c'est-à-dire qu'on a érigé les liens du sang comme étant quelque chose de profondément sacré. Et c'est la décision qui a été prise à l'époque, elle s'est traduite de cette manière. C'est-à-dire qu'on a estimé que comme cette famille d'accueil n'était pas ma mère biologique, et qu'il fallait impérativement que je reste à proximité du domicile de ma mère biologique, je n'ai pas pu la suivre dans le sud de la France. Voilà. Alors qu'elle était tout à fait en capacité de m'élever, de m'éduquer, elle m'apportait de l'amour, mais ce n'est pas ce qui a primé à ce moment-là.
Donc les liens... gardé contact avec ?
J'ai gardé des contacts avec. Après, on a une relation un peu... Voilà, un peu particulière, parce que je pense qu'elle est mal à l'aise, elle est peut-être, elle culpabilise aussi, je pense, d'avoir quand même pris la décision de partir vivre dans le sud, et ça entrave un peu nos liens aujourd'hui. Moi, je lui en veux pas, mais il y a toujours un petit malaise quand on se parle, ouais.
Aujourd'hui, justement, concrètement, comment on peut aider ? Est-ce qu'il y a une association particulière, justement, à laquelle on peut se rattacher, contacter, savoir un peu comment les familles qui désiraient, bien justement, parrainer un enfant placé ou aider une association, comment peut-elle le faire aujourd'hui concrètement, l'IS ?
Alors de manière très concrète, pour parrainer ou pour marrainer un enfant, alors le parrainage ça consiste à accueillir un enfant le mercredi après-midi sur les temps périscolaires, le week-end pendant les vacances, et puis de créer un lien avec lui, et un lien qui soit durable dans l'idéal. Et donc là pour pouvoir apporter cette aide, il y a l'association Parrain par Mille qui existe et qui fait un travail extraordinaire, qui se sont d'ailleurs spécialisés dans le parrainage et dans le marrainage d'enfants placés. Et puis pour agir de manière plus politique, c'est-à-dire pour aider des associations d'anciens enfants placés, eh bien vous pouvez soutenir l'association Repairs, donc c'est REPAIRS, qui a été fondée simplement par des anciens de l'ASE, qui vient en aide à ceux qui, à 18 ans, se retrouvent sans rien. Donc, ils financent des nuits d'hôtel pour leur permettre de ne pas être à la rue, des kits d'hygiène, de la nourriture, mais c'est aussi un espace où il y a de vrais liens de solidarité qui s'expriment et de vraies relations affectives. C'est presque une seconde famille, finalement, pour tous ceux qui sortent de l'ASE et qui mènent un plaidoyer absolument remarquable, notamment pour demander au pouvoir public de rendre obligatoire l'assistance de tous les enfants placés par un avocat. Obligatoire. Et puis la protection de tous les jeunes qui sortent de l'ASE à 18 ans, au moins jusqu'à 21 ans.
Et moi je vous conseille aussi, peut-être après avoir vu le film si vous souhaitez, ou avant, d'aller vous procurer chez Flammarion et bien ce livre Dans l'enfer des foyers de Lies Loufoque, justement qu'on peut encore trouver, puis pourquoi pas le lire, voilà, et essayer d'être sensibilisé justement voilà à cette cause. Voilà, cette cause parce que mine de rien, voilà, aujourd'hui les associations ont besoin de vous. Il y a encore beaucoup d'enfants, tu le disais, un sans-abri sur 4 quand même est un enfant placé. Enfin, c'est dramatique ce genre de situation.
Chez les jeunes, parce que là je parle de la population générale, hein, donc tout âge confondu de personnes sans-abri, mais sur les jeunes SDF de moins de 25 ans, nés en France, c'est 40% d'entre eux qui sont d'anciens enfants placés. Donc c'est quasiment un SDF sur deux de moins de 25 ans qui sort tout juste de foyer ou de famille d'accueil. Et c'est notre responsabilité à tous de nous occuper d'eux, parce que ce sont des enfants qui sont sous la responsabilité de la puissance publique. Et la puissance publique, finalement, c'est un peu nous tous.
Ça laisse des traces indélébiles, ce genre de situation. Toi, comment tu vas aujourd'hui, Ilias ?
Moi très bien, j'essaye du mieux que je peux d'avoir une vie d'adulte épanouie. Après, il faut pas se voiler la face. Je pense qu'un placement, et particulièrement quand il est long, ça laisse des séquelles. On se construit pas de la même façon que les autres. On a des codes sociaux qui sont différents, des rapports aux autres qui le sont également. Et donc ça vient impacter finalement tout le reste de notre vie. Mais il n'y a pas de fatalité. Par contre, à condition qu'on ne reste pas isolé, à condition qu'on en parle, à condition qu'on sorte de l'omerta et qu'on n'ait plus honte du parcours que l'on a eu, puisque ce n'est pas à nous d'avoir honte, c'est aux institutions qui dysfonctionnent et aux pouvoirs publics qui, jusqu'à présent, n'ont fait que trop peu pour régler le problème.
Merci beaucoup en tout cas, Lies, d'avoir été avec nous. L'enfant de personne, c'est cette semaine sur France 2 et on va bien sûr regarder cette fiction tous ensemble. Voilà, je vous conseille vraiment, c'est notre coup de cœur télé. On va écouter la bande-annonce et puis on te souhaite plein de belles choses en tout cas pour la suite, Lies.
Merci à vous.
Mon bébé, tu te souviens de ce qu'on s'est dit, hein ? Paul et moi, on va aller vivre dans le sud de la France et toi, tu vas aller vivre avec la dame.
Non.
Tu verras, elle est très gentille.
Non, j'ai pas envie de vivre avec elle.
On en a parlé, mon chéri. Et après,
non,
tu viendras voir notre nouvelle maison.
Hein ?
Non. Non. Yes, c'est ta nouvelle tati. Elle s'appelle Muriel.
Allez, on va parler de la fiction Le Furet diffusé cette semaine sur TF1. Et là, vous allez rire, bien évidemment. C'est une fiction qui va vous faire rire, mais qui à la fois délivre un message assez fort aussi sur la PMA. Et on va pouvoir découvrir ce film avec notamment Nadia Rose, qui joue le rôle de Caro dans le film. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Il y a des applaudissements par Boudergue aussi, notre invité qui joue le rôle du frère de Mathieu Madénian et propriétaire de Michel, dont on va parler évidemment dans un instant aussi, qui est la star en fait de la série Sacré Michel. Boudergue, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup de nous recevoir, je suis très content d'être ici.
Merci Boudergue d'être avec nous. Le Furet, alors c'est une histoire très drôle évidemment, et comme pourrait la définir Mathieu Madénian, c'est l'histoire d'un mec qui se fait mordre les parties, les trésors par un furet. Et donc Michel, qui est le furet que tu apportes chez ton frère. En gros, je crois que j'ai bien situé la situation, mais évidemment ça va être un fond de comédie qui va nous emmener vers un sujet bien plus important par la suite.
Exactement, c'est l'histoire d'un mec, Maxime, qui est campé par magnifiquement joué par Mathieu Madénian, joue le rôle d'un mec à peu près 40 ans, qui est là, qui il veut pas d'enfant pour l'instant, il est bien dans sa petite vie. Alors il a des couples d'amis qui eux ont des enfants, et il décide, lui il est bien dans sa vie, jusqu'au jour où son frère débarque chez lui avec un furet, et ce furet là lui mange
par accident, vous le verrez d'ailleurs
dans le film sans trop le spolier, mais lui mord les bijoux de famille, et Maxime se retrouve stérile, et du coup là il se remet en question, il se dit non mais en fait j'ai envie d'avoir des enfants, et puis sans trop vous spolier le film, mais c'est une histoire assez drôle et très sentimentale et très touchante.
Surtout que, et ça c'est l'élément quand même important du film, c'est que il se fait mordre et devient stérile après avoir fait un don de sperme. Donc évidemment, c'est là que ça mène tout l'intérêt du film et le questionnement du personnage. On va parler de Caro, évidemment. Alors Caro, elle, c'est la maman qui est la nouvellement maman, on peut dire, je crois. Un petit peu dépassée.
Elle est ceinture noire de parentalité. Elle est pleine de bons conseils. Elle a un avis sur tout. Elle met un peu son nez partout. Elle est très protectrice. C'est la meilleure amie du personnage de Mathieu Madénian. Et elle est très protectrice. Et puis bon, peut-être qu'elle se mêle un petit peu de ce qui la regarde pas tout le temps, mais en tout cas, elle est très attachante, comme certains pourraient dire. Et il va y avoir des jolies scènes où on va, sa bande d'amis, parce que c'est aussi un film choral avec plein d'amis. Je vais les citer. Oh oui, citons-les. Mais il y a Claire Kane déjà qui va jouer l'amoureuse de Mathieu, sans trop vous spoiler.
Nader Boussandel.
Il y a Juliette Rezanini, Rodolphe Courtois, Loïc Legendre, mon époux, mon cher et tendre, avec lequel on a des belles scènes de comédie où on s'engueule joyeusement. Et voilà. Et donc, cette Caro, moi, je l'aime beaucoup.
Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, dans cette fiction, vous êtes beaucoup d'humoristes à être habitués aussi à la scène, que ce soit Mathieu, que ce soit toi, Boudère, Nadia. Vous avez quasiment tous fait du one-man show sur scène ou du one-woman show. Est-ce que ça aide un peu pour des fois faire un peu d'impro, où il a fallu respecter le texte au millimètre? Comment ça s'est passé sur le tournage, Nadia?
Oh, ça aide, oui, ça aide, parce qu'on est une joyeuse bande, ouais, on a l'habitude de la scène, de l'humour, du sens de la vanne et du rythme, et de l'impro aussi un petit peu. Et non, on a eu beaucoup de liberté. Thomas Soto, le réalisateur, nous a laissé de la place pour ça, pour même réinventer des scènes à des moments, ou ajouter un petit mot, et il en a gardé plein dans le film. Il y a de notre personnalité, effectivement.
Non mais oui, et puis ça se ressent à l'écran. On s'apprécie tous, on se connaît déjà depuis très longtemps avec Nadia, avec Mathieu, avec Loïc, avec plein d'autres. Ça aide pour avoir le côté comique. Alors bien sûr qu'il y a la base qui est respectée. Après on rajoute avec notre jeu, avec notre manière de faire. Chacun rajoute un peu, ajoute sa pierre à l'édifice, c'est comme ça qu'on dit. Et ça a donné le film drôle que vous avez vu. Et que vous allez voir, cher public.
Moi, j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde, et c'est vrai que c'était un vrai bonheur. On passe 1h30 vraiment non seulement à rire, mais voilà, ça c'est un peu l'ascenseur des émotions aussi, parce que évidemment on remet les pieds sur terre avec le personnage de Claire Kane qui elle cherche à tout prix essayer d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas. Et cette rencontre évidemment entre le personnage de Maxime et celui de Claire. Est-ce qu'il y a eu une scène assez drôle, ou par exemple la scène où il s'est mort, est-ce que vous avez pu y assister, est-ce que vous avez pu voir en coulisses puisse un peu comment ça s'est passé. Alors celle-là, elle est hilarante quand on est derrière la télé. Je vous garantis que là, nous, on rit. Hein. On rit beaucoup.
J'étais pas là ce jour-là, mais j'ai eu la chance, dans le cadre du Festival de la fiction de La Rochelle, il y a quelques semaines déjà, de voir le film avec un public dans un contexte comme dans une salle de cinéma. Et effectivement, ça a beaucoup, beaucoup ri. Et ça nous avait vraiment réchauffé le cœur. Et notamment cette scène-là, oui, qui est déjà un peu anthologique.
Ah oui.
Non, ouais, mais puis il faut savoir que, avec Mathieu, on a été obligé de. C'est normal, hein. On a été obligé de partager quelques jours avec un vrai furet. Avec le furet, justement, qui joue dans le film. Alors, le furet, il a une particularité, c'est qu'il pue. Ça sent très très fort, un furet.
Plus fort que Mathieu.
Deux fois plus fort que Mathieu.
C'est bien ce que tu anticipes la prochaine question. Ouais, là, franchement, c'est top parce que j'ai envie de savoir comment ça s'est passé avec le furet quand même.
Bah, ça s'est super bien passé parce qu'il y avait une dresseuse avec nous sur le tournage et même avant le tournage, on avait été pendant deux jours pour se familiariser justement avec le furet. Et pour moi, c'était une expérience exceptionnelle parce que c'est un animal comédien. Donc c'est un animal qui, quand on dit action, enfin voilà, il sait, enfin c'est très bizarre, hein. Mais moi j'ai une expérience mortelle avec cet animal et puis ça a été compliqué, mais on m'a montré comment le tenir, on m'a montré comment le caresser, comment lui donner à manger, donc c'était assez rigolo, quoi.
Vous allez découvrir ce personnage central qui est Michel, justement, dans le film. C'est le prénom du furet, c'est la star du film, bien évidemment. Votre actualité. Tiens, pour 2022, est-ce qu'on va vous revoir un petit peu sur scène déjà tous les deux? Parce que Boudère, je crois que tu vas repasser dans notre région, mais pas que, tu vas être en tournée un petit peu partout en France.
Ouais, en 2022, ouais. Bah, je suis à Lyon, je suis à l'Olympia au mois de mai, et ouais, j'ai beaucoup de dates, donc vous pouvez les voir sur les sites, sur les réseaux sociaux.
Bon, dis-nous, c'est quoi Boudère sur scène un peu?
Bah, Boudère sur scène, bah, c'est un spectacle qui se passe dans ma chambre d'enfant. Donc j'ai un décor j'ai un lit, enfin c'est ma chambre d'enfant quand le rideau s'ouvre, où vous voyez les posters que j'avais quand j'étais petit, et je raconte un peu les déboires de mon premier spectacle, ma vie aujourd'hui en tant que papa, comment la peur d'éduquer mon enfant, cette société un peu violente dans laquelle on vit, mais avec de manière, enfin je raconte ça de manière très très légère, burlesque, avec beaucoup d'autodérision.
Nadia,
et je parle bien quand même, hein.
Mais tu nous l'as bien vendu, parce que tu vois, et ben nous on sera là pour venir te voir. Nadia,
j'espère que ma prose sera aussi belle que celle de Boudère. Alors moi, mon actu, elle est très télévisuelle et scénique. J'ai eu la chance de beaucoup tourner là toute l'année précédente. Donc il y a la série Le Remplaçant aux côtés de Jerry Star sur TF1 qui va être diffusée là bientôt. La série La Faute à Rousseau sur France 2. Il y a
une saison 2, donc du coup La Faute à Rousseau qui a été tournée et qu'on va découvrir très vite.
Exactement. On est en train de tourner la suite. Et j'ai tourné aussi une série. 6 épisodes de 52 minutes pour France 2 qui arrive très bientôt aux côtés de Tom Leb, Isabelle Vitari, Maud Becker, et ça s'appelle L'amour presque parfait, donc ça arrive bientôt, et un nouveau projet pour M6, enfin voilà, je suis très contente, j'ai la chance de bien travailler, et mon nouveau spectacle qui est en préparation en rodage, voilà, actuellement, c'est ça que tu veux comme info, c'est un scoop pour vous, et je vais commencer à le roder, là je suis en train de le roder.
Chouette. Nadia Rose, bientôt le retour.
Qu'un nouveau spectacle. Ouais, je suis ravie parce que ça me manquait. Moi, ça fait plus de 2 ans que je suis pas montée sur scène entre ma maternité, puisque j'ai eu un deuxième enfant, et le Covid, mais ça, on va pas en parler.
Voilà, c'est ça. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Boudère. Merci Nadia d'avoir été avec nous, le furet, cette semaine sur TF1. On va rire. Alors, faut pas s'en prier. Surtout en ce moment. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous tous.
Il y a une fille attachée chez toi?
À moitié, juste une main, ça va?
Oui, ça va.
Oh, ça a l'air trop cool, ça, faut que j'essaye. Bon, je vois pas trop Caro te demander de l'attacher.
Mais qu'est-ce que tu connais de ma vie sexuelle, toi, d'abord?
Bah, tout. Je te rappelle qu'on est potes depuis 20 ans, hein.
Ouais. Parler de la vie sexuelle de qui, les gars?
Les merguez?
Les merguez, oh putain, les merguez.
Non, Max.
J'ai oublié les merguez, écoute.
Qu'est-ce qui t'arrive, toi, encore?
C'est Charlotte, elle est obsédée à l'idée de faire un deuxième enfant. Elle me fout la pression, elle m'épuise, toujours.
Salut, Max. Ça va?
Salut, ça.
Et on retrouve Boudère pour le spectacle Boudère is back, le 17 et 18 novembre prochain, cette semaine à la BD Comédie d'Angoulême, le 25 janvier prochain à Roya du côté du Puy-de-Dôme, et à la Baule en Loire-Atlantique le 30 avril prochain.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, et puis on est content de l'avoir en vrai parce qu'on l'avait eu par téléphone pendant le confinement pour le coup, puisqu'il était à l'honneur du Prime, Boubacar Cabot, qui joue le rôle de Mousse dans la série. Bonjour Boubacar.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Enfin, se voit en vrai. Ça, c'est plutôt sympa. Pierre, dis donc, tu marches. C'est incroyable.
Eh ouais, c'est incroyable. Ouais, ça fait plaisir de se voir en vrai, hein, pour rebondir sur ta première question. Mais oui, ça fait plaisir, hein, parce qu'on s'était eu au téléphone et là, on se voit et je marche, évidemment.
Mais oui, effectivement. Alors, toi, t'es arrivé dans Plus belle la vie maintenant, il y a plusieurs mois. Et franchement, quelle aventure. Ton personnage a tout de suite séduit les téléspectateurs. À tel point qu'au début, t'étais prévu pour rester aussi longtemps ou pas. Ça s'est vraiment décidé au fur et à mesure de voir l'attachement des téléspectateurs pour ton personnage.
Ouais, ça s'est fait plus avec les retours des téléspectateurs. Donc moi, de base, je devais rester 6 jours. Et finalement, ça fait presque 200 aujourd'hui. Donc 6 longs jours, on va dire. Donc ouais, voilà, c'est super. C'est grâce aux téléspectateurs. Merci à vous.
Bon, et puis la belle histoire, évidemment, histoire d'amour. Enfin, ça a été l'évasion. T'as fini en tôle. Enfin bref, il en est arrivé quand même au personnage en peu de temps.
Ouais, c'est super. Il y a eu plein de rebondissements pour mon personnage. Je suis pas resté simplement, voilà, le petit copain qui était juste au centre de rééduque. Il y a un papa qui est arrivé, une chérie, une coloc, un boulot, la prison, la sortie de prison, un prime. C'est ouf, quoi. Tant que comédien, c'est génial.
Boubacar, quand tu es arrivé dans la série, tu savais que tu allais jouer un jeune homme en fauteuil roulant. Est-ce que c'est plus fatigant? Comment tu te prépares à un rôle comme celui-là?
Je
discute avec des personnes en situation de handicap.
Ouais, j'ai commencé par regarder le film Patient, où il y a des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la production qui me l'a conseillé. J'ai rencontré aussi Adab Deli, qui est créateur de la série.
Vestiaire.
Voilà, exactement, de Vestiaire, qui m'a coaché, donc qui m'a appris à avancer, reculer, tourner, faire des 8 avec le fauteuil.
Et t'as bien entraîné, dis donc, hein.
Ah ouais, c'est un super coach, hein. C'est un super coach. Et oui, après, j'ai regardé aussi pas mal de choses sur Internet de mon côté. Pour être réaliste dans mon interprétation, je suis content aujourd'hui de ce que ça rend. Je suis content. Je trouve, sans, en toute humilité, hein, je me vante pas, mais je trouve que j'interprète bien par rapport au retour que j'ai. J'ai beaucoup de retours positifs, de messages d'encouragement, de soutien et de personnes qui valident mon interprétation.
Et je suis sûr que, mine de rien, parce que tu sais, sur une quotidienne où vous invitez tous les soirs chez les téléspectateurs, je suis sûr que quand il y en a qui te voient marcher dans la rue, ils se disent mais il marche. Je suis sûr qu'il y en a plein qui te le font, ça.
Ouais, moi, c'est la première, une des premières phrases qu'on me dit quand on me voit, c'est, ah, il est où le fauteuil? Tu marches? Ou sinon, on me dit, para ou tétra? C'est une de mes premières répliques dans la série. C'est comme ça que je suis rentré. C'était une réplique assez forte parce que j'embêtais un peu Luna. Et on m'en parle tous les jours. C'est les deux choses qu'on me dit le plus souvent.
C'est vrai, c'est devenu un personnage à part entière, ton fauteuil avec toi.
Ouais, c'est mes baskets, quoi. Moi, dès que j'arrive sur le tournage, je prends mon fauteuil. Il me faut mes 2-3 minutes où je tourne un peu avec le fauteuil, que je me remette dedans, que je me remette, à l'aise, quoi. Comme je dis, c'est comme si j'enfilais mes crampons pour un footballeur, quoi. J'ai besoin de ça pour jouer. Et pour répondre à ta question d'avant à laquelle j'ai pas répondu, c'est pas fatigant. Le fauteuil, c'est, ça fait partie de mon jeu, quoi. J'ai besoin de mon fauteuil. Et je sais quand j'ai pas mon fauteuil, quoi. Je le sens. Dès que je tombe dans le lit ou quoi, c'est pas pareil. J'aime bien tourner dans mon fauteuil.
On discutait avec Bruno Debrandt, qui a joué K1 pendant des années en fauteuil. Et lui, il a arrêté parce que justement, ça l'avait épuisé de jouer pendant de nombreuses années comme ça, ce rôle. C'est pour ça que je te posais un petit peu cette question.
Ouais, non, moi je suis pas prêt d'être épuisé de jouer ce rôle-là. J'attends encore plus d'aventure et d'action. Mais non, moi je suis content de jouer ce rôle-là. On passe un message et c'est important. C'est important qu'il y en ait des personnes en situation de handicap dans les séries. Et j'ai envie de dire, pourvu que ça dure et qu'on continue de voir des choses, des actions, des...
Puis on l'aime, Mousse, nous. Et oui, les téléspectateurs te le rendent bien. Est-ce que t'as un souvenir particulier à nous raconter? Une anecdote de tournage? Qui a pu se passer lors, par exemple, de tes chorégraphies en fauteuil, par exemple?
Si je n'en donnais qu'une, hein, je vais en donner... Ouais, je dirais ma course en fauteuil avec Luna, au centre des rééduques. C'était dans les débuts. Cette séquence-là, elle est symbolique, parce qu'on l'a tournée après de longs mois, de longues semaines plutôt, intenses. C'était une journée en extérieur, et à la fin de cette course, Anne s'est effondrée. Parce que elle était fatiguée, parce que elle tournait depuis des semaines sans être maquillée, sans être apprêtée. Et c'était une séquence forte, en émotion pour nous deux. Et ça, c'est un des plus beaux souvenirs de tournage.
Il y en a eu quelques-unes des séquences fortes en émotion entre vous deux, justement, dans ce centre de rééducation. Merci, Boubacar. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as des projets aussi en dehors de Plus belle la vie? Est-ce que tu as eu le temps de tourner d'autres choses? Cinéma, télévision, théâtre?
Oui, là, j'ai normalement un unitaire qui va sortir avec Anne Charrier, Olivier Marchal, Hubert Delattre, où je joue un policier, j'ai le troisième rôle. Donc ça, c'est niveau cinéma. Et ensuite, comme je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc des Jeux para surtout. Donc on va mener des actions. Et voilà mes prochaines activités, quoi.
Non, ça va bien t'occuper. Puis on te suit évidemment pour ton grand retour dans Plus belle la vie du lundi au vendredi à 20h20. Merci beaucoup, Boubacar.
Merci beaucoup et à bientôt.
Et à très vite. Dans un instant, les Baudins nous rejoignent pour la fin de l'émission. Les Baudins en Thaïlande, on va bien rire, alors surtout ne bougez pas. On revient tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Quel bonheur tout simple aujourd'hui en ce 15 novembre. Dans deux jours sort Les Baudins en Thaïlande. Et je crois qu'on va bien rigoler. Et en plus quel bonheur de les avoir avec nous aujourd'hui. Puisque Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On est complètement épuisés. On vient de faire 125 avant-premières. On est sur les rotules.
Ah mais franchement vous avez fait une tournée d'avant-premières qui ont tout affiché complet. Ça a été dingue ce qui s'est passé pendant un mois et demi là.
On est sur le Derche.
C'est un espèce de tsunami.
Ouais. De surimi ou de tsunami? Hein, Jean-Christian? De tsunami ou de surimi?
Je sais plus, à force.
Vous comprendrez en voyant le film.
Tsunami, ouais. Un tsunami de spectateurs. Que des salles pleines, tout ça, avec des gens qui rient, c'est, qu'est-ce que tu veux demander de plus, toi?
Ouais, on a de la chance, c'est vrai. On est conscient, hein, qu'on a de la chance. Donc, on va essayer de rester digne de tout ce qui nous arrive.
Faut pas être simple, ça.
Non, faut travailler. Oui. C'est le seul truc à faire.
C'est un film qui n'a vraiment qu'une prétention, c'est vous faire rire, vous divertir. Vous donner voilà envie de retourner au cinéma et on a besoin de films comme les vôtres en ce moment pour justement que les gens reviennent et c'était le bonheur de voir des gens revenir justement au cinéma pour la première fois depuis la réouverture pour voir votre film. Ça fait quoi ça?
Ben nous ce qui nous a beaucoup touché c'est effectivement de voir tant de monde mais surtout tous les soirs dans les cinémas, tous les jours, je dis tous les soirs, en fait on faisait de 6 à 10 salles par jour on a fait et dans toutes les salles il y avait des familles réunies, des enfants. Et on prend conscience qu'on vient de faire un film familial. Et nous, en fin de compte, c'est notre plus grande fierté, ça. Parce que c'est pas facile de réunir les générations. On est plutôt à une époque où les générations se divisent avec chacun devant un ordi et tout ça. Réunir et fédérer, c'est cool quand même.
Alors, il y a plusieurs années, on était là pour Amélie au pays des Baudins. Évidemment, tout se passait un peu dans la ferme. Alors là, les Baudins ont claqué le PEL pour s'envoler direction à Thaïlande. Qui a eu cette idée folle de partir en Thaïlande, nous emmener en aventure comme ça?
Christian est pas dans ses...
Ouais, je suis pas dans mes chaussettes. Non, mes trucs, il veut rien dire.
Il est pas très en forme.
Ouais, non, il a le moral à zéro. Il vient de divorcer.
La Claudine, je suppose.
Bah ouais.
Vous avez vu, je suis, hein, je suis fan. Hein.
Ça va pas fort. Et puis, bah, il veut attenter à ses jours. Donc, sa mère se dit mince. Et puis le.
Non, sa mère elle se dit merde. Elle se dit jamais mince, Marie-Maud.
Oui, sa mère se dit merde. Et elle va voir un psy qui lui dit, Madame Baudin, si vous ne le dépaysez pas, si vous ne le sortez pas de cette réalité difficile
qu'est sa vie, il va recommencer. Et donc Maria Baudin, elle aime beaucoup son fils et elle cosse sa tirelire. Elle cosse sa tirelire et elle l'emmène en voyage.
Ce qu'il faut pas entendre. Je me barre.
C'est plus pénible quand t'es comme ça.
Ah. La première chose qui va quand même le séduire, c'est les Thaïlandaises, hein.
Ben ouais. Ouais. Ben non, mais il est au fond du trou, si j'ose dire. Pardon. Et d'un seul coup, il y a une espèce d'apparition qui une serveuse thaïlandaise qui vient lui servir un verre. Et puis voilà, il se dit ça y est, c'est peut-être la chance de ma vie. Elle a l'air d'être gentille. Dès qu'on est gentil avec lui, le fils Baudin, il y croit quoi. Bah ouais, c'est marrant.
Il croit en tout, le fils Baudin.
Donc,
mais c'est voilà, pour ça qu'il est avoir. C'est un enfant.
Bah oui.
Bah alors justement, la Maria qui fait du jet ski.
Ouais.
Alors là, je peux vous dire, il faut pas rater ce moment-là, parce que franchement, c'est d'anthologie. Vincent, tu t'es entraîné combien de temps? Parce que c'est un jet à bras, en plus, t'as pas choisi la facilité, hein. C'est-à-dire, tu t'es pas dit, je prends un jet plat, trois places, tranquille. T'as pris le jet à bras, quoi.
En fait, j'ai rien choisi. J'avais jamais fait de jet ski de ma vie. Donc, jet à bras, toi, tu connais la différence. Moi, je la connais même pas. On m'a dit, voilà, ça serait bien que Maria Baudin fasse ça. Enfin, non, ça, c'est nous qui l'avions écrit, d'ailleurs. Et puis, donc, j'ai pris un engin. Moi, je pilote des petits avions, mais c'est beaucoup moins difficile. En fait. Et le jet ski, j'ai fait des entraînements pour arriver à ça. Bon, j'ai pris quelques gamelles, mais ça vaut le coup, c'est beaucoup amusé.
Ouais,
on est prêt à recommencer en fait.
Non, mais en plus, dans ce genre de film, on avait envie de mettre des cascades, des poursuites, enfin vraiment, on avait envie de jouer au. de faire les c'est des gamineries quoi, donc toutes ces poursuites dans Bangkok, tout ça, on était comme des gamins quoi, c'est on s'est régalé à faire tout ça.
Moi, j'avais vraiment le plaisir de vraiment de ressentir l'émotion qu'on peut recevoir dans le rire quand on voyait les deux Funès Bourville dans La Grande Vadrouille, dans des films comme ça. Et franchement, c'est ça qu'on ressent quand on les voit tous les deux, Maria et Christian, sur un terrain pas connu pour eux. Et c'est vraiment cette impression qu'on a, c'est vraiment de revoir cette énergie folle et cette bonhomie qu'il y avait chez Bourville dans ce duo de dingue.
Comme dit Jean-Christian, tu peux pas nous faire plus plaisir. Nous, on a été élevés au dialogue d'Audiard, à La Grande Vadrouille, Corneau et tout, donc si ça te donne ce sentiment-là, non, on est très heureux. Mais c'est vrai que de toute façon, les duos comiques, ils ont toujours fonctionné pareil. Il y a un bourreau, une victime. Bourville, c'est la victime. Louis de Funès, le bourreau.
Et attends, ça sera pas toujours comme ça.
Oh, tu vas, ça sent la suite, ça.
Tu vas voir un jour.
Ah, tu crois que tu vas te biffer ?
Ah ouais.
Ah mon petit mignon. Ouais. Non mais tu les as pas. Il faut avoir des kiwis dans la corbeille pour ça. Non, laisse tomber.
Ah ouais, c'est pas mal imagé ça. Tiens, ouais. Allez, on écoute la bande-annonce. Ouais. Parce que vous allez déjà rire rien qu'en l'entendant à la radio, puisque Les Beautés en Thaïlande, ça sort mercredi dans les salles. On revient juste après avec Vincent et Jean-Christian. À tout de suite.
Bon, écoutez, Madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser.
Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? C'est magnifique.
Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame.
Il est fou, lui. Oh, pop, 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 pop. Ah, dis donc, la vache. Oh, Christian, réveille-toi. Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh, doux Jésus. Oh, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Oh, merci, merci, tiens. J'ai le papa.
Mettons des sous, le monsieur, là.
Des sous? Oh, là. Alors, tiens.
Thank you.
Allez, fais-nous.
Ah, pardon.
S'il y a un bouton qui allume tout, il y a forcément un qui éteint tout, c'est logique.
Et par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule.
Voilà, de retour, on va bien rire. Mercredi au cinéma, on en a bien besoin en ce moment. Et puis là, évidemment, vous allez retourner sur la scène aussi, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous a énormément manqué. On vous retrouvera notamment au Zénith de Nantes au mois de décembre. C'est pas si loin de notre région, donc vraiment, profitez-en pour aller voir aussi. Et puis à Bordeaux aussi, à l'Arena à Florac. Donc il y aura de quoi.
Je crois. Février à Bordeaux. Ouais.
Il y a des beaux rendez-vous et puis je suis sûr que vous avez hâte de retrouver le public, même si là déjà c'était un peu un bel encas cette tournée d'avant-première.
C'est plus qu'un encas, c'est un cadeau incroyable. Nous on est comme des gamins, de on est toujours quand on arrive dans la salle comme ça, on se cache derrière, d'entendre une salle de cinéma rire, c'est encore plus jouissif qu'au théâtre, je pense, parce que on se dit voilà, on est plus là, ils rigolent de ce qu'on a tourné il y a un an en fait, parce que ça fait un an qu'on y était. Donc c'est très, alors ce qui est bizarre, c'est qu'on peut plus rien faire, on peut pas améliorer les choses, on peut juste essayer de profiter, se dire voilà, mais en tout cas ça se marre, hein.
Et on s'est marré, je peux vous le dire franchement. Est-ce qu'il y a une scène qui a été plus drôle qu'une autre ou qui a été difficile à mettre en boîte justement?
La difficulté en fait du tournage, c'était le temps, parce qu'on était toujours pris par le temps. Tous les jours, on a tourné 16 à 17 heures par jour, on n'a pas dormi beaucoup. La chaleur et l'humidité, Maria Baudin, les varices, le fichu, le maquillage, tout ça c'était assez physique. Mais on avait tellement la tête dans le guidon que ça a été comme une espèce de moment un peu de... On se rappellera de ça toute notre vie. Hein.
C'est l'expérience de notre vie avec ce film-là. En spectacle, enfin avec nos personnages. Donc c'est vrai que c'est un moment incroyable qu'on a vécu, des moments là-bas. Bah, non mais quoi ressortir de particulier? On a eu plein de fous rires, c'est beaucoup de fatigue. Quelquefois on finissait de tourner à 4h30 du matin, on n'en pouvait plus, mais on arrivait encore, on avait encore des fous rires nerveux tellement c'était.
La scène Benjamin Pavard dans le village en Thaïlande. Ouais. En fait, on avait écrit que le fils Baudin, on trouvait ça marrant que lui il connaisse rien d'autre comme chanson qu'une chanson de supporter. Ouais. Donc mais
fils Baudin.
Bah oui, heureusement qu'il aime pas ça. Et en fin de compte
quand c'est parti, on s'imaginait pas que les musiciens là-bas en Thaïlande avec des instruments thaïlandais, ils allaient commencer à...
C'était pas écrit ça. En fait, on savait qu'on allait chanter Benjamin Pavard, mais on savait pas que les musiciens, ils sont mis à nous accompagner en improvisation, et c'est parti, et tous les Thaïlandais se sont mis à chanter, alors que c'était pas prévu. Donc, et ce qui est curieux, c'est que le lendemain, le surlendemain, les jours qui suivaient, tous les Thaïlandais chantaient Benjamin Pavard,
sans comprendre ce que ça voulait dire, mais ils se rappelaient de l'air.
Alors, moi, si je me souviens bien, les garçons, vous aviez tourné Amélie au Pays des Baudins en 11 jours. C'était un truc de fou avec Eric Rock. C'est vrai, à l'époque, vous étiez venu. Là, vous avez pris quelques jours de plus quand même pour tourner.
Ouais, deux mois, une
deux mois, ouais. Ouais.
Deux mois en Thaïlande et une semaine en France. Enfin,
on ne pouvait pas faire moins. Bah. Par exemple, la scène de poursuite dans les rues de Bangkok, à l'écran, a fait 4 minutes. On a mis 7 jours à la tourner. Parce que
c'est pas étonnant, la course poursuite, elle est dingue. Hein. Ouais, vous verrez dans le film.
Ouais, ça y va,
hein. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, heureusement, le chef d'orchestre de tout ça, c'est Frédéric Forestier, qui a tourné Le Boulet, qui a tourné Star 80,
Astérix aux Jeux Olympiques, le Poussin.
Il a l'habitude des grands films d'action.
Dans les scènes avec beaucoup de figurants et des poursuites, des cascades, etc. Il est très adroit.
Alors cette scène de course poursuite, justement. Il y avait des appréhensions quand même des fois.
Non, parce que en fin de compte, Fred, on dormait pas beaucoup, mais lui dormait moins longtemps que nous, parce que quand on allait se coucher à l'hôtel, lui, il se renfermait dans sa chambre, il prenait un papier, un crayon, et puis il storyboardait, et il faisait des cases comme on fait dans une BD, et il dessinait chaque plan. Donc le lendemain, nous, on avait juste à faire ce qu'il avait préparé, et on lui faisait confiance. Voilà. Bon après, la fatigue physique était là. C'est sûr, quand on court comme des tarés toute la journée, à un moment.
Non, mais la poursuite, les 7 jours de la poursuite, c'était bien, bien fatigant, ça. Parce que même si on court pas pendant 10 minutes, mais si on fractionne les plans, ça, il faut le faire, quoi. Puis il faut que ça soit intense, etc. Donc ça demande de l'énergie, quoi.
Alors, la suite, c'est évidemment vous remontez sur scène très vite, là, enfin. J'oserais dire parce que le public vous attend vraiment, mais la suite après, est-ce que vous pensez déjà peut-être à un nouveau film? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller plus vite? Est-ce que vous nous avez fait attendre quand même pas loin de 10 ans, hein?
Oui, c'est trop. Non, mais là on a envie d'y retourner très vite. On a aussi envie de refaire un autre spectacle. Et puis alors notre prochain opus, si j'ose dire, c'est une grande émission de télé que nous a confiée M6, une émission de divertissement qu'on tourne à la mi-décembre dans le décor de notre ferme où il y aura plein d'invités. Ça se passe dans la cour de la ferme des Baudins. Les Baudins font une espèce de soirée caritative pour une œuvre quelconque dans leur village. Et ils invitent plein de gens très connus et on scénarise tout ça. Et voilà, on va faire plein de sketchs présentés, etc. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et on est déjà super flattés que M6 nous confie une émission entière. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on bosse comme des tarés sur ça là, en ce moment.
Pour une diffusion en 2022, a priori, ou pour les fêtes, carrément?
Premier semestre 2022.
Ouais. Voilà. Début 2022, mais on sait pas quand encore la diffusion.
Bon, et on vous retrouve évidemment pour Grandeur Nature, hein. Ça passera au Zénith de Nantes, ça sera en décembre, et puis ça passera également à l'Arca Arena de Bordeaux, du côté de Foirac, en février. On manquera pas de venir vous voir, promis.
Et comme c'est presque plein au Zénith de Nantes, il y a déjà les dates de l'année prochaine, on repassera au Zénith de Nantes. Premier week-end de décembre 2022. Et les dates sont déjà ouvertes, en fait.
Eh ben voilà, le rendez-vous est pris.
Fini, je pense que j'aurai l'âge de la vieille, moi.
Ouais.
Il restera une ou deux dents, peut-être.
Ouais. Alors, ouf, mais et encore. On n'a plus besoin de dents, de toute façon, à partir d'un certain âge.
Des dentiers, on s'en fout.
Puis Maria Bonin, elle a juste besoin de picoler.
Ouais.
Comme on dit chez nous, je mange du boire.
Bon, en tout cas, dites bonjour à tout le monde, hein, à Marine, Jean-Marie, Ségolène, hein, toute la ferme, hein, j'espère qu'ils seront là.
On n'est pas à l'abri.
Bah oui, j'imagine. Bah oui. Bon, les Baudins en Thaïlande, c'est mercredi dans les salles et on va se réécouter un petit extrait, rien que pour le plaisir. Merci beaucoup, Jean-Christian, merci Vincent, et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt.
Merci. Salut, merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Emmanuel Berco sera notre invité exceptionnel pour la sortie de son film De son vivant. L'équipe de la nouvelle série OCS hashtag Boomer sera également nos invités, seront tous avec nous. Et puis aussi Thomas Jouanet pour Sophie Cross sera notre invité. Et il y aura évidemment bien d'autres surprises qui vous attendent aussi. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volet battant, coulissant ou persienne innovant, fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.